formes utiles. L'art et ses récits. Une émission proposée par Fabiola Bodoy. La chose semblait, comme sans doute, absolument certaine.
Nous sommes sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez des formes utiles, l'art et ses récits. Je suis heureuse d'avoir avec moi Karine Gambard, artiste. Bonjour Karine. En réfléchissant à cet entretien, j'ai trouvé un message que je t'avais envoyé suite à l'après-midi dans l'atelier de Raquel Lévy à Malakoff autour de ton projet Le Milan Noir, Prostranstvo. Un des paragraphes du message disait: comment penses-tu? Quel chemin se ferait sans nu? Quel raccord, accord je dirais maintenant, entre les gestes, la pensée, les images blotties dans les recoins ou évidentes, les objets du jour, le tremblement fin de la mémoire, le désir? Et je me suis dit que c'est peut-être parler de cela que j'aimerais dans ces deux émissions. Karine, tu dis dans un texte, je cite, d'un besoin d'insuffler ou d'être porteur d'une sorte de maladie chronique de diffuser de l'art dans la vie. Une sorte d'hymne à la vie comme un souffle qui détourne et casse les rangs aux chaînes que chacun met une vie à finir d'attacher. Puis, d'une sorte de volonté de regarder, de toucher, de rencontrer, comprendre avec insistance, acquaintance, pour entrer dans. Pourquoi l'art? Et entrer dans quoi?
Bonjour Fabiola. Difficile question. Pourquoi l'art? Peut-être parce que l'art peut être parce que c'est depuis longtemps un chemin de traverse, un endroit qui amène à penser différemment, à voir différemment, à rencontrer des gens, à croiser des chemins. Je pense que ça a été une sorte de nécessité chez moi très très jeune d'aller vers ces chemins-là. Je pense que je lisais même des ouvrages que je ne comprenais pas. J'ai été de suite attirée, je pense, par certaines rencontres, notamment une voisine chez mes parents qui était russe et son mari bulgare, et qui avait un environnement comme ça avec des œuvres qui étaient différentes de mon environnement. Et ça a commencé à se construire autour aussi beaucoup de lectures, de textes, de mots. Je pense qu'assez tôt, je me suis construit un univers. Et je pense même que je peux dire que je me suis construite à partir des mots des autres. Peut-être pour échapper aux miens, pas les mêmes, mais en tout cas, c'était une façon d'avancer. Et ça a été chez moi un peu comme une course, en fait, avec une métaphore peut-être sportive. Je pense que c'est quelque chose qui m'a habité, animé, porté. Et j'ai l'impression d'avoir peut-être couru et attrapé tous ces moments avec une acuité de plus en plus fine, je pense, et en tout cas de plus en plus quotidienne.
Pour entrer dans la vie,
pour entrer en relation avec les autres, mais pour entrer surtout peut-être dans une vie qui se situe entre ciel et terre. Donc, pas trop de décollage, mais pas trop de terre à terre non plus.
La littérature russe, la Russie, la révolution roumaine en 89, l'Est semble répondre depuis l'adolescence, répondre ou éveiller à quelque chose en toi. Un autre rapport, un autre récit du monde.
Oui, c'est vraiment, je pense, ça fait partie des rencontres littéraires les plus importantes pour moi. Mes parents et grands-parents avaient acquis un appartement dans les Hauts-de-France, en fait, dans le Pas-de-Calais, qui était meublé avec des livres. Et donc, moi, je dévorais à peu près tout ce qui était devant moi au niveau lecture. Et là, j'ai eu la chance, en tout cas, de découvrir toute une série d'ouvrages qui étaient juste là et dont je me suis saisie. Des grands écrivains russes, et là, ça m'a passionnée. En fait, ça a ouvert une sorte d'espace à la fois descriptif, extrêmement précis et lent. Et j'ai découvert des univers, des descriptions, des univers également naturels qui m'ont littéralement fasciné, une sorte de profondeur que j'ai continué à rechercher dans le travail et dans les relations.
Перерекаться, не пора ли предаться любви? Тем живее его соловьи. Толь в расцвете судьбы, толь на склоне, что я знаю про век и про дни. Отвори мне калитку в Мое время крови. Отражен или сторгнут роялем свет луны, это тайна для глаз, но поющий всегда отворяет. Что было закрыто для нас, как влюблен он и нежен, и стати, он ноги отвори, поспеши. Можно все расточить и растратить.
Il y a eu un texte, plus tard peut-être, que tu appelles fondateur. Puis l'international situationniste de Guy Debord, construire des moments de la vie, bouleversement de la vie quotidienne, réappropriation du réel. C'était des déclencheurs et des influences sur ta pensée. Pourrais-tu nous parler de ce texte, de cette influence, des autres influences?
Oui, je pense que le texte qui a été un charnière en fait dans le choix aussi de peut-être prendre cette orientation assez forte et une sorte de radicalité artistique, ça a été l'existentialiste est un humanisme de Jean-Paul Sartre. C'est pas un texte très très long, mais je pense que ça m'a permis, en tout cas je me suis sentie libre d'aller vers des choses qui sans doute me faisaient peur, m'inquiétaient, en tout cas c'était une forme de risque, mais je pensais pas que je pouvais faire autre chose que ça. Je voulais pas faire un demi-choix, je voulais aller vers quelque chose vraiment qui me porte, me tienne, m'apporte de la connaissance et me permettre d'être à ce niveau qui me va bien, en tout cas vers lequel je tendais, d'avoir une sorte de posture comme ça, un peu aérienne, à la fois ancrée. Je parlais des textes russes qui sont quand même des ancrages forts, mais de pouvoir relier des choses, d'être dans un espace intermédiaire.
Et l'international situationniste, c'était ça qui a donné un peu les amorces du travail ou...
J'ai commencé à travailler autour des choses quotidiennes, et puis ça s'est ensuite accéléré. C'était vraiment des prélèvements. Il y avait cette volonté aussi d'utiliser le dessin ou l'appareil photo, en tout cas d'être proche d'un minimum, du geste, du relevé. C'était presque comme des notes dessinées ou photographiques avec des temps différents. Et puis petit à petit, le travail s'est ancré dans un quotidien. Et je pense que j'ai laissé de plus en plus le hasard, ou en tout cas les rencontres du quotidien, dans un quotidien finalement où on se lève, on travaille, voilà, un quotidien comme tout le monde en fait.
Georges Perec disait « Les journaux parlent de tout sauf du journalier. Les journaux m'ennuient, ils ne m'apprennent rien. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste... Tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte? Comment l'interroger? Comment le décrire? Peut-être s'agit-il de fonder enfin notre propre anthropologie, celle qui parlera de nous, qui ira chercher en nous ce que nous avons si longtemps pillé chez les autres. Non plus l'exotique, mais l'endotique. Est-ce que, dans l'art, c'est de quelque chose de cet ordre-là que tu cherches. Tu me disais une fois que tu n'aimes pas le mot irrévocable. Est-ce cette tentation de révoquer, de reconfigurer?
Oui, c'est une tentation peut-être d'abord de poser le regard, d'avoir une sorte d'acuité quotidienne, de ne pas aller chercher l'extraordinaire ou d'aller chercher l'extraordinaire dans l'ordinaire. En tout cas, le poétique dans l'ordinaire, et petit à petit d'avoir de plus en plus de dextérité pour voir un peu plus profondément, que ce soit dans les relations, dans les objets, dans les éléments qui vont être dessinés. En tout cas, avoir cette ultra simplicité du moment, de la rencontre, du temps présent. Et de pouvoir comme ça créer... je parlais au début, quand j'ai commencé à travailler, souvent de dépasser les limites de la feuille, les limites du cadre. J'ai beaucoup travaillé sur le cadre, en fait, et réussir à relier des choses qui normalement ne sont pas reliées, ou voir des choses d'une manière poétique qui ne le sont pas vraiment à la base.
Le récit, il avait donc besoin de s'incarner, de prendre corps, c'est pour cela les photos, des photos où les éléments sont capturés dans un sort de hors-temps, le dessin, toujours des fragments, une attention sensible aux détails, aux particuliers, l'essence des choses serait là.
Oui, je suis vraiment... J'aime me rapprocher en tout cas de cet endroit-là et j'avais une sorte de résistance ou peut-être, je ne sais pas si c'est une peur, une résistance ou en tout cas, j'ai toujours une inquiétude quand ça forme trop. Pour moi, former trop, ça veut dire, quelque part, ça veut dire que les choses s'arrêtent. On perd un peu la respiration. En fait, j'aime qu'il y ait cet état qui soit pas forcément fini, peut-être qui pourrait te reprendre, qui pourrait changer de forme. Je m'étais beaucoup questionnée sur les formats, sur le moment d'arrêter quelque chose, mais je pense en fait ce qui est primordial pour moi, c'est le suspens. C'est-à-dire que je les arrête, je pense au moment où c'est encore suspendu et il peut se passer quelque chose. Soit par une intervention, soit par une reprise, soit par une redéfinition, soit éventuellement par quelqu'un d'autre. Peut-être aussi des choses qui sont transmises pour qu'elles puissent changer de forme. Donc il y a cette relation au mouvement Je pense peut-être parce que c'est aussi une relation à la vie, tout simplement, en fait, à la pulsation, à la respiration, à quelque chose comme ça, de l'ordre du souffle qui... on pense pas toujours au fait qu'on respire, mais on respire tout le temps. Donc je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là dans le travail, et dans ce travail qui veut pas trop aller à la forme finie, qui finalement ferait que ce travail artistique, peut-être qu'il s'arrêterait, qu'il serait quelque chose d'inerte, en fait. Il y a, je pense, une résistance à l'inerte.
Tu collectes. Moment, récit, tu archives. Tu crées des objets éditoriaux. Le travail est proposé aussi en itinérance. Et lorsque tu exposes, tu poses ton travail à des endroits comme la Villa Savoie, de Corbusier, à la Maison Louis Carré, dessinée par Alvar Aalto, à Condé House à Kyoto. Tu fais le lien entre dedans et dehors, entre architecture et nature. Tu proposes un repas dans ton atelier, l'atelier de Raquel dernièrement. Tu amorces et tu fais passer. Déclenche une conversation. Crée des moments de partage au McVal, à Ivry-sur-Seine. Ton projet de fin d'études en soustraire, tu proposes avec Mounir Kranza et Raphaël Medeiros de sortir du musée, de faire parler ceux qui y travaillent, les ouvriers, les techniciens. À travers une buvette, vous rassemblez les voix de ceux qu'on ne voit pas et qui font eux aussi partie de l'ensemble muséal. Quel est le point de départ d'un projet? Y a-t-il un point d'arrivée, la part du risque?
Le point de départ, c'est souvent une rencontre entre deux ou plusieurs éléments ou personnes, ou à un moment donné, et j'aime bien travailler sur ce moment de l'amorce, en fait. Je pense que c'est comme un puzzle, il y a des pièces qui sont posées devant, et puis il va y avoir un déclenchement. Avec le temps, j'accepte ces déclenchements, ou pas de déclenchement, donc un temps de latence comme ça qui peut être inquiétant, mais qui va générer. Et puis il y a le moment du déclenchement, de réfléchir à la bonne forme pour que les choses arrivent, en fait, ou à la forme minimum pour que les choses puissent arriver sans trop reprendre, sans trop faire œuvre, entre guillemets. Donc ça m'intéresse beaucoup, ces sortes de capillarité. Hein. Il y a des éléments qui viennent se rencontrer, se toucher, et c'est l'amorce, en fait. Et puis ensuite, on déroule, et avec le temps, je pense que le plus important pour moi, c'est de projeter le moins possible, en fait, d'accepter ce qui arrive, et que les choses se construisent ou se déconstruisent, ou prennent le temps, en tout cas, qu'il n'y ait pas de projeter, en fait. Il y a une intention, il y a un démarrage, il y a une amorce, mais en tout cas, il n'y a pas la projection de ce que ça va être, sinon je pense qu'on peut l'arrêter comme ça. Et d'ailleurs, j'ai des boîtes avec des choses comme ça qui sont arrêtées parce que peut-être qu'elles n'étaient pas assez en difficulté, en équilibre, peut-être, ou elles étaient déjà trop posées, trop... avait déjà une projection trop importante. Et je trouve que c'est assez beau de travailler sur cette fragilité et ce risque, en fait, de ne pas savoir trop où on va aller. Quand on travaille à plusieurs, j'aime beaucoup aussi travailler avec d'autres. Et du coup, ce temps de construction où les choses doivent s'articuler, on revient un peu en arrière et puis finalement, on a une entité qui existe.
Mieux vaut ne penser à rien que de pas penser du tout. Rien, c'est déjà beaucoup. On ne se souvient de rien, et puisqu'on oublie tout, rien c'est bien mieux que tout. Mieux vaut ne penser à rien que de penser à vous. Ça ne me vaut rien du tout. Mais comme si de rien n'était, je pense à tout. Ces petits rires qui me venaient de vous. Si c'était trois fois rien entre nous, Évidemment, ça ne fait pas beaucoup. Ce sont ces petits riens que j'ai mis bout à bout. Ces petits riens qui me venaient de vous. Mieux vaut pleurer de rien que de rire de tout. Pleurer pour rien, c'est déjà beaucoup. Mais vous, vous n'avez rien dans le cœur et j'avoue, je vous envie, je vous en veux beaucoup. Ce sont ces petits riens qui me venaient de vous. Les voulez-vous, tenez, que voulez-vous? Moi, je ne veux pour rien au monde, plus rien de vous. Pour être à vous, faut être à moitié.
Dans un beau texte sur ton travail, Serena Altin souligne, c'est le cas de le dire, la permanence de la ligne. Elle dit « Les lignes sont les dominantes de son vocabulaire. Verticale, horizontale, diagonale, tangente, transversale. L'arête ou la ligne de démarcation, le trait dans la nature, les contours, définissent la forme. De même les plis de la nature, l'axe de tension, l'élan qui habite l'arbre, ou le pli du tissu, tendu par la masse et le mouvement. La ligne de tension ou ligne d'ouverture délimitée, ou la rencontre de plusieurs axes en va-et-vient. La ligne fragile, sur le point de disparaître, en train de changer d'état, définit le champ de recherche. » Bien après ce texte, tu m'as parlé dans un message du livre de l'anthropologue britannique Tim Ingold, « Une brève histoire des lignes », paru chez Insensible, en 2011, je crois. Selon lui, l'Occident a progressivement changé le cours de la ligne, celle-ci perdant peu à peu le lien qui l'unissait au geste et à sa trace, pour tendre finalement vers l'idéal de la modernité, la ligne droite. Peut-on dire que dans ton travail, tu essaies de retrouver ce lien entre le geste et sa trace, une sorte d'art narratif?
Il y a certainement quelque chose, surtout dans le dessin, mais même si le dessin souvent sort de la feuille et vient s'appuyer tant sur l'architecture à habiter que sur le langage, ou c'est des dessins finalement qui vont être plutôt dans l'espace ou qui vont prendre appui sur tout ce qui nous entoure, y compris l'humain. Mais en tout cas, je pense que l'ancrage, il y a quelque chose qui questionne peut-être la mémoire, ou en tout cas quelque chose qui serait de l'ordre du commun ou de quelque chose que l'on aurait depuis longtemps. Souvent, je suis vraiment avec la feuille et le crayon, en fait, avec plus simples outils, même si le papier est travaillé, le grammage, en fait, je travaille quand même la précision sur le support et sur l'outil, mais l'outil reste un crayon. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui doit prendre, en tout cas, racine avant. Je ne sais pas si ça se voit, mais je pense qu'au travers du geste, et les dessins peuvent quitter le crayon et le papier, mais je pense qu'il y a toujours quand même cet ancrage dans une mémoire qui est peut-être une mémoire commune, en tout cas quelque chose, un bagage. Mon rapport au dessin est lié à ça. Le dessin, c'est quelque chose de très ancien. On peut dessiner même sans support. En fait, c'est un geste premier. Et ça, je pense que c'est peut-être ce qui fait que j'ai ce compagnonnage depuis si longtemps avec le dessin. Donc c'est le dessin de l'enfant qui dessine qui dessine juste parce qu'il y a, sans forcément projeter, sans savoir ce qui va sortir. C'est le dessin de celle qui apprend à dessiner, celle qui désapprend à dessiner, celle qui apprend à dessiner sans papier, sans crayon. En tout cas, c'est quelque chose qui m'accompagne et qui me précède.
Après le lycée de Sèvres, l'histoire de l'art à Nanterre, l'ESBA de Nantes puis Montpellier, tu intègres en 2014 l'IHEAP, l'Institut de hautes études en arts plastiques, actuellement ENDA, l'École nationale d'art, une école qui remet en cause et prétend offrir l'opportunité de se libérer des acquis des écoles d'art de la dépendance de l'art à l'œuvre d'art. Qui cherchais-tu ?
Je commençais à avoir l'intuition, après avoir travaillé de manière sérielle, tant dans le dessin qu'en photographie, le dessin restait important pour le temps, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte, ça accompagnait un temps de gestation d'autres projets, et la photo pour la radicalité et la rapidité, j'avais ces deux entrées-là et j'épuisais les séries qui en généraient des nouvelles. Donc souvent sur des choses effectivement rencontrées, des hasards au niveau formel, mais j'avais l'intuition qu'il y avait quelque chose qui jouait ailleurs. Il y a toujours cette importance pour le langage, donc je définis beaucoup les choses, et je pense que ça a démarré avec les titrages. J'ai commencé à me demander si ce travail de langage sur les titres n'était pas un plus important pour moi et pour le travail surtout que les visuels. Et j'étais un peu à une période où je sentais que ça ne se jouait plus. J'avais certainement été au bout d'une forme de pratique. Et en même temps, j'étais un peu perdue avec ça, parce que une fois qu'on a ce pressentiment, qu'on sent que ça se joue pas à l'endroit où on fait forme, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et ça m'a intéressée, notamment sur cette notion de soustraction. Je me suis dit, est-ce qu'il faut soustraire le dessin en lui-même, le dessin formel sur un papier, un crayon, la photographie, à comment faire pour tracer d'une autre façon et en garder une visibilité même minime, ou est-ce qu'il faut passer par l'oralité? Enfin, j'étais dans ce sous-bois, dans cet entre-deux, on sent qu'il y a quelque chose qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est plus trop là où ça se joue, mais qu'on n'a pas encore trouvé la porte d'après.
Oui, parce que c'était la session 10 que tu as intégrée, était la soustraction, effectivement. Et j'ai pensé initialement que cela pourrait être paradoxal, puisque une part importante de ton travail est l'archivage. Et en quoi ton travail s'est vu transformé par la suite?
Je pense que je me suis peut-être simplement permise de risquer, de pas savoir, de me dire qu'effectivement j'avais un travail autour de langage, un travail d'archivage, de classement, de boîtes, quand même très très important, de documentation, et j'ai commencé à former avec toute la partie, enfin former très légèrement, mais en tout cas à mettre en forme des boîtes, des éléments, à ranger toute cette masse de documentation, d'archives que je conserve, et à me dire que peut-être qu'il y avait un travail à cet endroit-là. Donc ça a commencé plutôt par une réorganisation complète de la partie bibliothèque jusqu'à la partie archive, puisque j'ai des dossiers, je pense, depuis... j'ai dû commencer quand j'avais 10 ans, en 1980. Donc ça date un peu. Mais en tout cas, j'ai repris toute cette matière que je garde quand même et que j'emmène avec moi de lieu en lieu, et que j'ai étoffé, donc ça, des dossiers d'artistes dans lesquels il y avait quelques cartes postales des premiers lieux où j'ai dû aller avec l'école, et puis qui se sont complétés avec des articles et de plus en plus, et donc pour certains, beaucoup de boîtes. Donc ça, c'est la partie un peu monographique autour des artistes, mais après, il y a toute l'archive sur les textes théoriques et toute une série aussi d'éléments d'archives que je conserve, des rencontres que je fais et qui se stratifient avec les années. Donc j'ai ta boîte, Fabiola.
Tu as oublié quand même une partie de tes archives en Nouvelle-Zélande, où tu as pas pu les rapatrier, il me semble.
Je crois que j'ai abandonné cette partie-là.
Tu as abandonné cette partie.
En fait, j'avais pris que les dessins en Nouvelle-Zélande. Et pour aller passer le concours des Beaux-Arts... Et je pensais retourner, en fait, j'ai obtenu le concours, du coup j'avais que mes dessins et j'ai laissé une partie de mes archives et de mes affaires à l'époque.
Mais il y avait aussi une manière de les proposer. Tu avais trouvé un ancien système féodal où je ne me rappelle plus exactement. Tu offrais ton travail à condition que la personne qui le choisit puisse le...
Oui, dans cette phase de bascule, en tout cas, d'intégration peut-être d'une période un peu différente. J'ai questionné beaucoup aussi par le don, et notamment en invitant des temps, je ne sais pas comment les appeler d'ailleurs, je ne vais pas utiliser le mot projet, mais en tout cas c'est des choses qui continuent à se faire. Sur rendez-vous à l'atelier, je laisse choisir des dessins, et celui qui choisit un dessin le présente, le montre, le sépare un peu et me renvoie simplement les traces de ce qu'il fait avec ce dessin.
Et il peut le céder à son tour au moment où il ne le présente plus.
C'est ça. En fait, l'idée étant que
que le don se continue.
Se poursuive, en fait, qu'il y ait comme ça quelque chose. On est toujours sur cette respiration, c'est-à-dire de ne pas laisser les choses se figer, mais d'essayer de les laisser en mouvement. Et ça devient presque des éléments, des objets transitoires, enfin, ou d'échanges, voilà, mais sans échange d'argent.
Je lis dans un article « La mémoire a une nature amnésique. La mémoire et l'oubli sont inséparables. Je me dis souvent qu'on retient ce qu'on n'arrive pas à oublier. Toi, que retiens-tu? Que ne peux-tu oublier? Veux-tu influer sur le flux de la mémoire ?»
Peut-être que je m'appuie sur la mémoire pour construire quelque chose une fragilité, je pense. Je ne sais pas ce que je souhaite oublier, mais en tout cas, ce que je ne veux pas oublier, c'est l'importance et la fragilité de la vie. Je pense que c'est une sorte de réponse comme ça, peut-être à la disparition. Et je maintiens un peu comme peut-être comme ceux qui avaient le feu il y a très longtemps. En fait, je souffle un peu sur mes braises tout le temps pour que ma lumière ne s'éteigne pas. C'est cette sorte de fragilité avec une pulsation, un mouvement, un tracé que j'essaye de maintenir comme ça, des fois un peu à bout de bras ou à bout de souffle. Mais je pense que c'est ça que je cherche.
T'es le gardien du feu. Comme une vestale.
Ouais, je me suis peut-être donné une mission de. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, parce que je prends souvent mon travail pour appui sur des choses difficiles, soit personnelles ou qui incombent plus largement des gens que je rencontre ou des situations délicates dans le monde, et il y en a plein. Mais il y a quand même toujours cette pulsation positive du tracé d'après, de maintenir cet état, et certainement par en reliant des choses qui font poésie.
I'm gonna do a tune called Remembering. Thank you.
Tu disais dans un texte qui évoque ta rencontre avec le travail de l'artiste indien Mario de Souza que tu exposes au Château d'Oiron en 2017, qu'elle soit dorée ou en noir, ne portons-nous pas tous une tristesse au coin de la lèvre, une coulure, une gerçure? Tes gerçures, donc, tu en fais de l'art.
En tout cas, je leur résiste par ce moyen-là, je pense.
J'aimerais que tu décrives, si tu veux, pour nos auditeurs, auditrices, un projet pour comprendre ton travail. Peut-être ton dernier, en Belgique, avec Edith Commissaire, que tu as proposé à votre atelier en juin dernier, un autre volet du Milan Noir Prostranstvo, et nous dire comment il est né, le Milan Noir, et qu'est-ce qui est le Milan Noir.
Le Milan Noir, il est né à un moment où on nous a demandé de ne pas bouger, et il y avait ce projet de mobilité autour du vélo, un simple vélo que l'on m'a donné, un vélo hollandais fabriqué en Inde, très, très léger. Il y a ce premier objet qui évoque la mobilité, et je sais plus exactement comment est née cette nécessité du déplacement avec, ou de l'idée du déplacement avec le vélo, et d'avoir quelque chose qui puisse se déployer dans plein d'endroits et qui se construise en se déplaçant. Donc ce projet se forme au fur et à mesure des rencontres et se définit à chaque fois qu'il se présente. Et la première fois, il n'est pas parti de l'atelier puisqu'on était bloqué. Donc il a commencé en statique, en regardant au plus près. Et puis ensuite, l'un des derniers déplacements du Milan, c'était effectivement en Belgique. Il y a eu plusieurs lieux. Ce sont des lieux qui peuvent présenter des œuvres ou le travail d'artistes, mais qui sont pas ni construits pour, ni complètement dédiés, puisqu'il y en a un, c'était le pavillon des sources de Chaudfontaine, qui est un pavillon dont la source s'est tarie, et qui, on l'a investi juste après les inondations extrêmement importantes qui avaient fait beaucoup de morts en Belgique et en Allemagne. Et cette relation de ce qu'on proposait dans ce lieu avec ce qui se passait aussi pour les habitants, on a travaillé avec ce qu'il y avait autour, Edith avec ses cocktails. Il y avait aussi les gens qui passaient, qui pouvaient rajouter, compléter ce projet avec des dessins. Puis ensuite, on a conservé cette archive. On a mis en avant également le travail d'une femme, Anne Deglin, qui est une lissière de Chaudfontaine, donc il y a encore sa maison qui est décédée au début du 21e siècle, mais dont on n'a pas tellement gardé trace à Chaudfontaine. Donc il y a eu ses rencontres aussi avec ses femmes. Là, elle avait fait dans ce pavillon une mosaïque, donc qui était un petit peu, je ne sais pas si complètement oubliée, mais en tout cas en sommeil pour les gens aussi locaux. Donc on a fait des recherches avec les gens, retrouvé sa maison, mis en avant. Quand les gens venaient visiter l'expo, on parlait aussi du travail d'Anne Deglin. Et c'est comme ça qu'il y a plusieurs travaux de femmes effacées par le temps que l'on a conservé sur le Milan. Et quand on présente le travail et l'archive, on évoque le travail de ces artistes ou d'Anne Deglin, qui était une lissière de Chaudfontaine.
Et le Milan Noir, c'est ce vélo sur lequel tu as créé un dispositif avec Geoffroy, il me semble, ou...
Alors, le Milan, au départ, on avait vraiment le vélo. Et dans l'atelier, la première étape était dans l'atelier de Raquel Lévy, l'ancien atelier de Raquel Lévy et d'Emmanuel Aucar à Malakoff. C'était vraiment juste après les confinements, quand ça s'est un tout petit peu réouvert, mais on était quand même très bloqués. Et les premières choses que l'on a conservées, les textes les différents textes, l'approche de différents artistes qui étaient invités, on les a juste sanglés sur des boîtes qui appartenaient certainement à Raquel ou qui étaient dans l'atelier.
Raquel qui était une artiste aussi.
Raquel Lévy. Je pense que ça devait lui appartenir ou ça avait été laissé. Donc on a simplement utilisé ces éléments qui étaient là. Et ensuite, à Chaudfontaine, on a poursuivi l'archive s'est complétée avec les traces de cet événement-là. On est allé aussi au fort de Saint-Héribert en Belgique, on a encore complété cette archive. Et là, c'est vrai que ça posait quelques questions de forme, donc on a travaillé avec Geoffrey Saint-Martin pour le temps d'arrêt, comme un oiseau sur son piquet avenue Cotille, dans l'atelier d'Edith Commissaire. Et là, c'est vrai qu'on a retravaillé sur un élément mobile, mais qui permet, en fait, l'élément a été construit à partir de la forme des archives, la taille des feuilles, la taille des éléments que l'on avait.
Et le Milan noir est un oiseau.
Le Milan noir est un oiseau. Il relie en fait des espaces qui m'accompagnent depuis longtemps, puisqu'il part de l'Afrique pour aller en Russie. Donc,
c'est pour ça Prostranstvo.
Prostranstvo, c'est cette notion d'espace, mais qui dépasse l'espace bâti. Et qui, pour moi, ce qui représente peut-être le plus les très grands espaces, c'est ce nord de la Russie et cet oiseau qui s'arrête. Que l'on peut retrouver posé sur un piquet. Donc, j'aime bien l'idée de ces piquets et nous de nous déplacer comme ça en invitant d'autres artistes et en constituant cette archive.
Et peut-être tu pourrais parler aussi d'un autre projet, toujours pour qu'on reste sur les oiseaux.
Il y a un autre projet effectivement dont j'aimerais partager. C'est le projet le Martinet Noir à puce que nous avons mené avec Geoffrey Saint-Martin. C'est un projet qui prend place à l'intérieur d'une architecture minimum, comme une sorte de presque une cellule en fait, qui est destinée à pouvoir être déplacée dans différents lieux, mais qui reprend tout ce qu'on peut avoir besoin, tant au niveau de la pratique que au niveau humain pour vivre et dessiner, ou en tout cas questionner le dessin. Donc c'est un projet qui a été que l'on a mis en place avec Geoffrey Saint-Martin, qui est designer graphique, qui travaille également le design d'objets. Cette entité comprend un élément modulable sur lequel on peut s'appuyer pour dessiner, et des éléments qui se déplient, qui à l'intérieur on peut retrouver tout le matériel, et on peut aussi s'allonger, dormir. Il y a un autre élément dans lequel on a le minimum pour se faire à manger, pouvoir rester, et c'est tout un ensemble d'éléments modulables qui peuvent se déplacer dans un autre lieu et qui peuvent permettre un temps de réflexion lié au dessin. Et j'ai choisi le martinet noir parce que c'est l'oiseau qui reste en vol le plus longtemps. Il peut vraiment rester en vol très très longtemps. Donc toujours avec cette notion comme ça d'être entre deux, c'est aussi, ça peut aller jusqu'à la création de dispositifs qui peuvent accompagner la pratique du dessin ou la réflexion autour du dessin et qui sont déplaçables.
Thank you.
sommes à la fin de ce premier entretien. Nous allons le poursuivre pour parler de tes collaborations, de la place du travail manuel, de la nature, du silence. Parler de ton travail d'administratrice de monuments nationaux, sans oublier les formes utiles et la responsabilité de l'artiste. J'aimerais que tu le clôt par la lecture d'une de tes amorces de ton travail, Art et la passe.
Art et la passe. Peut-être parce que le monde est complexe et sa lecture extraite des différentes grilles religieuses réfutées. Peut-être parce que les hasards et l'aléatoire forment un espace de respiration, où la surprise vient briser le fil du quotidien avec bonheur et légèreté. Peut-être parce qu'il me semble toujours plus juste d'être avec que d'écrire sur. Peut-être qu'au prix d'un combat entre le temps et les moyens, des réserves d'espace-temps sont soudain devenues envisageables. C'est un état de fait aujourd'hui. La recherche se déploie au fil du quotidien, des rencontres, des lieux et du temps. Avec une armature qui vient pointer la réciprocité de la relation binaire en réaction à une forme de mondialisation, de mise en réseau toujours plus diluée. Avec la modestie inspirée du monde rural, au rythme des saisons, de la terre et des éléments. Au rythme des rencontres, des poursuites, des questionnements, du chemin de traverse, au prix d'égarement ou volontairement de laisser l'autre dérouté. Travailler sur la mécanique propice à, sur la mise en place de systèmes socio-économiques permettant de. Le travail se situant précisément dans le déclenchement après le de. Souvent en y revenant avec radicalité et précision. Souvent avec l'autre, l'ailleurs, le lointain rêvé dans les textes plus jeunes, et simplement en travaillant sur cet état d'alerte qui peut transformer chaque moment en matière, chaque moment en manière, transmission, don, échange. Le fil de l'art et du temps, du passage à l'art.
Merci, Karine.